Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله.
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de la radio francophone iranienne en ce samedi 23 novembre 2024, 3 Hazar 1403 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez avec nous. L'acte d'accusation émise par la CPI contre Netanyahou aurait dû inclure le génocide, affirme Téhéran. L'Iran va lancer de nouvelles centrifugeuses avancées en réponse à la résolution de la IOA. Et à Gaza, tous les hôpitaux vont réduire ou cesser leurs activités d'ici 48 heures. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici les détails. Par la voix du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, l'Iran a affirmé que la décision de la Cour pénale internationale, CPI, contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre des Affaires militaires Yoav Gallant aurait dû inclure le crime de génocide qui est évident. La chambre préliminaire de la CPI a émis jeudi les mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au moins à partir du 8 octobre 2023 jusqu'au 20 mai 2024 dans la bande de Gaza. Y réagissant, Esmaïl Baghaï a publié vendredi un message sur X indiquant que 14 mois après le début de la guerre génocidaire du régime d'occupation à Gaza, marquée par les atrocités les plus déchirantes, la chambre préliminaire de la CPI a enfin émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant. Bien sûr, leur acte d'accusation aurait dû inclure le crime de génocide qui est manifeste, a-t-il ajouté. Nous saluons toute mesure visant à rendre la justice et à mettre fin à l'impunité du régime israélien pour le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis dans les territoires palestiniens occupés et ailleurs, a soutenu le porte-parole. La procrastination chronique a demandé des comptes à Israël, principalement en raison des obstructions et des intimidations secrètes ou ouvertes des États-Unis, a permis la persistance de crimes atroces dans les territoires occupés, a-t-il regretté, avant de souligner que l'exécution complète et immédiate de ces mandats d'arrêt peut démontrer l'efficacité de la justice pénale internationale. Pareil a mis en garde contre toute procrastination et espérer que cette décision tardive ne sera pas manipulée par un abus de procédure. À noter que les juges de la CPI ont déclaré jeudi qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que Netanyahou et Gallant ont intentionnellement et sciemment privé la population civile de Gaza de choses indispensables à sa survie. Le tribunal a également déclaré que les deux hommes portaient une responsabilité pénale pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis lors de l'attaque sanglante contre Gaza. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIEA, a annoncé qu'elle prévoyait d'activer une série de centrifugeuses nouvelles et avancées en réponse à la dernière résolution de l'AIEA. Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a voté par 19 voix pour, 3 contre et 12 abstentions la résolution qui accusait Téhéran de coopérer mal avec l'agence et demandait un rapport complet sur les activités nucléaires au plus tard au printemps 2025. Après la résolution, nous avons immédiatement commencé nos mesures coercitives. Nous augmenterons considérablement la capacité d'enrichissement, a déclaré Behrouz Kamolvandi, vice-président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique pour les affaires internationales, juridiques et parlementaires, dans une interview télévisée vendredi. Le responsable iranien a noté que l'OIEA avait informé jeudi soir l'AIEA des mesures que le pays prendrait en réponse à la résolution du Conseil des 35 pays. Il a déclaré que la résolution conduira à une augmentation de notre capacité dans les secteurs de l'industrie nucléaire. Dans une déclaration conjointe publiée vendredi matin, le ministère iranien des Affaires étrangères et l'OIEA ont déclaré que des directives avaient été émises pour lancer l'exploitation d'un nombre substantiel de centrifugeuses avancées de divers modèles. L'Iran avait déjà prévenu que toute résolution contre son programme nucléaire pacifique serait accueillie avec une réponse rapide. Un haut responsable de la santé de Gaza a prévenu que tous les hôpitaux du territoire assiégé devraient cesser ou réduire leurs activités d'ici 48 heures en raison du manque de carburant dû au blocus israélien. Nous lançons un avertissement urgent car tous les hôpitaux de la bande de Gaza cesseront de fonctionner ou réduiront leurs services dans les 48 heures en raison de l'obstruction de l'entrée de carburant par le régime d'occupation, a déclaré Marwan Alams, directeur des hôpitaux de campagne de Gaza, lors d'une conférence de presse vendredi. Mettant en garde contre la détérioration de la situation des installations médicales dans la zone assiégée palestinienne, Marwan Alams a indiqué que l'armée israélienne poursuivait la guerre génocidaire contre le peuple palestinien ainsi que la destruction du système de santé de Gaza. Les équipes médicales dans les hôpitaux du nord de Gaza restent sans nourriture et les patients sont sans traitement tandis qu'aucun service d'urgence ou de défense civile ne fonctionne en raison du génocide en cours, a déclaré Al-Hams. Le directeur des hôpitaux de campagne de Gaza a ajouté que les militaires israéliens avaient ciblé l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza plus tôt dans la journée, blessant 6 membres du personnel médical, dont 2 se trouvaient dans un état critique. Dans ce droit fil, il a déclaré que l'armée israélienne a frappé le générateur électrique de l'hôpital, la station d'oxygène, ainsi que le système d'approvisionnement en eau. Ceci tombe alors que les ambulanciers, les hôpitaux et les travailleurs humanitaires doivent être protégés en vertu des règles de la guerre. Mais ils ont tous été pris pour cible par Israël lors des récentes offensives à Gaza, en Cisjordanie et au Liban. Gaza est au bord de la famine, avec de nombreux enfants hospitalisés en raison de la malnutrition, de la faim et de la déshydratation, a-t-il déploré, ajoutant qu'il y a eu des décès, notamment parmi les personnes âgées, dans les hôpitaux du nord de Gaza à cause de la faim. En outre, Marwan Alams a appelé la communauté internationale à œuvrer pour mettre fin à la guerre et au génocide contre le peuple palestinien, à protéger et à sécuriser le personnel médical et les hôpitaux et à permettre l'entrée de toute nourriture, de toute aide médicale et de tout carburant à Gaza. Le régime israélien a ciblé samedi avec des missiles un immeuble résidentiel au cœur de la capitale libanaise Beyrouth. Au moins 4 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés. Des missiles israéliens ont frappé à l'aube de ce samedi un immeuble résidentiel de 8 étages dans la région de Basta à Beyrouth et l'ont complètement détruit, a rapporté la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen. L'occupation israélienne a réveillé les habitants de Beyrouth à 4 heures du matin avec une série de frappes aériennes ciblant un seul endroit, un immeuble résidentiel dans le quartier de Basta, rasant complètement le bâtiment et endommageant plusieurs autres dans ses environs, a indiqué la chaîne de télévision libanaise. Al-Mayadeen affirme que les explosions étant de forte intensité ont été entendues dans tout Beyrouth. Les bâtiments environnants ont également subi des dommages importants. Selon le bilan provisoire du ministre libanais de la Santé, 4 personnes ont été tuées en martyrs et 23 autres blessées. Les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours pour récupérer les victimes sous les décombres. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. Résolution de l'AIEA, l'Iran dénonce le recours à la pression, à l'intimidation et à la confrontation. Téhéran déconseille aux pays occidentaux de recourir à la pression ou à l'intimidation ni à une approche conflictuelle vis-à-vis de l'Iran en ce qui concerne les activités nucléaires légitimes et pacifiques. Le représentant permanent de l'Iran auprès de l'Office de l'ONU et d'autres organisations internationales à Vienne, Mohsen Nazirias a rappelé que la pression ou l'intimidation ne constituaient pas une option adéquate et acceptable car elles ne peuvent aboutir qu'à l'impasse. La République islamique est prête à s'engager dans une interaction positive par le biais du dialogue et d'une coopération constructive en vue de parvenir à une solution durable au problème en suspens, a-t-il indiqué. Ces remarques interviennent après que le Conseil des gouverneurs de l'Agence, l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU, a adopté une résolution anti-iranienne basée sur une proposition transmise par le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. La résolution réitère les accusations du trio européen et de leurs alliés contre la République islamique d'Iran concernant une coopération insuffisante avec l'AIEA. Les États-Unis, les 3 États européens ainsi que leurs alliés ont pris de nombreuses mesures similaires contre l'Iran sur fond des accusations contre la République islamique d'Iran selon lesquelles Téhéran n'a pas coopéré suffisamment avec l'AIEA, négligeant la pleine coopération croissante de l'Iran avec l'agence au cours de ces dernières années. L'approche conflictuelle actuelle de l'Occident intervient alors que ce sont les États-Unis qui ont rompu leurs engagements internationaux envers l'Iran en quittant unilatéralement et illégalement l'accord nucléaire de 2015 entre l'Iran et les 6 grandes puissances du monde, connu officiellement sous le nom du Plan Global d'Action Conjoint ou PGAC, et en rétablissant les sanctions que l'accord avait levées. La Troïka européenne, également signataire de l'accord, n'a pas réussi à faire revenir Washington dans l'accord, malgré son insistance répétée à le faire. Or, Nazirias a réitéré que le retrait unilatéral, injustifié et illégal des États-Unis du PGAC se trouvait à l'origine de la situation actuelle. Si certains membres du Conseil des gouverneurs peuvent s'interroger sur la mise en œuvre de l'accord nucléaire, les États-Unis n'en ont aucun droit puisqu'ils n'ont ménagé aucun effort pour le détruire. Il a aussi rappelé aux pays européens leur refus de respecter leur engagement dans le cadre de l'accord. Le haut diplomate iranien a ensuite parlé des mesures de représailles prises par l'Iran en réponse au retrait des États-Unis du PGAC et à l'attitude conflictuelle des pays européens et de l'AIEA et l'activation des centrifugeuses avancées de l'Iran en réponse à la résolution de l'AIEA. Le représentant iranien auprès de l'Office des Nations Unies à Vienne a réitéré les déclarations du président iranien Massoud Pezeshkian et du ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi qui ont toujours précisé que la République islamique reviendrait sur ses mesures coercitives juridiques si les sanctions américaines étaient annulées de manière effective et véritable et si les autres parties à l'accord nucléaire retournaient à l'exécution de leurs obligations contractuelles. Dans la foulée, Naziri Asl a conseillé aux parties européennes de ne pas répéter leurs actions infructueuses du passé. Par ailleurs, il a fermement condamné les récentes sanctions des pays européens à la compagnie aérienne nationale iranienne ainsi que la compagnie de transport maritime du pays, ce qu'il a qualifié de violation de l'esprit et du contenu de l'accord nucléaire. Ces mesures économiques sont en contradiction avec les engagements qui pourraient servir de base à toute interaction future, a-t-il indiqué. Il a dénoncé le peu de cas de la Troïka européenne envers son devoir de lever les sanctions illégales imposées au programme de missiles iranien dans le cadre de leur engagement envers les clauses de l'accord nucléaire. Il est à souligner que conformément à une annonce faite par le secrétariat de l'ONU, le programme de missiles de l'Iran ne sera plus soumis aux restrictions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, a-t-il déclaré. La République islamique d'Iran, affirme-t-il, est prête à une interaction positive à condition que les autres parties à l'accord nucléaire prouvent leur volonté politique et leur engagement envers l'accord et qu'ils ne lient pas les négociations sur la relance potentielle de l'accord à des questions non pertinentes.
À toutes et à tous, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat. Alors, j'ai l'immense plaisir d'animer le débat d'aujourd'hui avec une nouvelle très importante qui est devenue la une des journaux, des médias internationaux. Netanyahou vanted et le premier ministre israélien est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. C'est un soulagement qualifié par les commentateurs. 120 pays ont salué la décision. Pourquoi cette décision est importante et pourquoi cette décision est un tournant historique? On va s'intéresser à ce sujet avec nos deux experts. Avant de les saluer, je vous propose un point en image. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite après.
La Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a émis ce jeudi 21 novembre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre des Affaires militaires Yoav Gallant pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été commis dans la bande de Gaza, a annoncé la CPI jeudi. La Chambre a émis des mandats d'arrêt contre deux individus, M. Benjamin Netanyahou et M. Yoav Gallant, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis à partir du 8 octobre 2023 jusqu'au 20 mai 2024, au moins jour où l'accusation a déposé les demandes de mandat d'arrêt, a déclaré dans un communiqué la CPI qui siège à La Haye. La CPI dit avoir des motifs raisonnables de croire que M. Netanyahou et M. Gallant portent la responsabilité pénale des crimes suivants. Le crime de guerre consistant à utiliser la famine comme méthode de guerre. crimes contre l'humanité, parmi lesquels des meurtres, persécutions et autres actes inhumains et la perpétration d'attaques intentionnellement dirigées contre la population civile. Les recours déposés par Israël rejetant la compétence de la CPI ont été rejetés. Depuis début octobre 2023, Israël mène une agression barbare qui a fait au moins 43 985 morts dans la bande Gaza et 3 558 autres au Liban jusqu'à présent. Les attaques meurtrières d'Israël ont déplacé presque toute la population de Gaza et plus d'un cinquième des habitants du Liban.
Voilà, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien et son ministre de la guerre, Gallant, sont devenus criminels de guerre. Officiellement, ils ne peuvent plus mettre le pied dans d'autres pays selon un verdict émis par la Cour pénale internationale, CPI. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Madame Aïssar Midani, intellectuelle et analyste politique, connaisseur des questions moyen-orientales. Ravie de vous retrouver, Aïssar, qui est avec nous depuis la France. Bonjour.
Oui, bonjour Zahra. Merci de votre invitation. Bonjour à toute l'équipe.
Merci. Notre deuxième invité, il s'agit de Maître Arnaud Deblay. Heureuse de vous retrouver, Maître Deblay. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Oui, merci à vous. Bonjour à toute l'équipe, et à Dr Midani, bien sûr.
Bonjour, Madame, Monsieur Deblay.
Madame Midani, si vous me le permettez, on va lancer le débat et entrer tout de suite dans le vif du sujet avec Maître Deblay, juriste international, spécialiste des questions stratégiques et journaliste également. Maître Deblay, dites-nous s'il vous plaît, sans tarder, pourquoi cette décision est importante et un tournant historique?
Ben écoutez, c'est un tournant historique pour la simple et bonne raison que CPI était en perte de vitesse depuis quelques années déjà, avec cette perception qu'elle n'était simplement qu'un instrument dans les mains des pays occidentaux, ce qui est une impression qui n'a pas encore complètement disparu, mais qui en tout cas remet de manière dramatique, rebat les cartes, hein, dans le sens où on avait l'impression que c'était surtout les ennemis de l'Occident qui étaient visés. Et on s'aperçoit que malgré les menaces, les pressions incessantes exercées à l'encontre du procureur M. Karim Khan, on rappellera qu'il y a une affaire actuellement portant une affaire de mœurs, portant sur M. Khan, qui ce dernier ne s'est pas laissé décontenancer, au contraire, et qui a tenu bon et donc. Ce faisant, la chambre préliminaire de la CPI a rendu sa décision et a confirmé l'émission des mandats d'arrêt.
Merci. À vous, on va aller plus loin avec vous, Aïssar Midani. Alors, nombreux pays ont salué cette décision. La France a réagi, mais d'une manière, en fait, pas assurée et réticente. Quant aux États-Unis, grand allié d'Israël, les États-Unis ont dénoncé la décision sans surprise. Alors, je rappelle que Israël et les États-Unis ne sont pas membres de la CPI. Alors, comment réagissez-vous à cette décision, s'il vous plaît?
D'abord, je salue cette décision qui devait venir il y a longtemps, d'ailleurs, parce que déjà depuis le 7 octobre et depuis le début des génocides, il y a eu des injonctions de la Cour internationale de justice. Il y a eu aussi des débuts, en fait, au niveau de la Cour pénale internationale, une volonté de condamner et d'arrêter Netanyahou. Ils ont subi des pressions absolument incroyables. est traité d'antisémite, traîné dans la boue par à la fois Israël et les États-Unis, qui ne sont, n'y sont pas membres, mais d'un autre côté, ils sont tous les deux impliqués de manière très claire dans ce génocide. Et donc, moi, je voudrais saluer encore une fois la Cour, la CPI, en fait, et puis notamment le juge Karim Khan, qui a résisté à toutes ces menaces, courageusement d'ailleurs, à toutes ces menaces et à toutes ces insultes hein, proférées par les États-Unis et et Israël d'ailleurs, et puis les responsables israéliens, mais aussi les responsables des pays qui soutiennent Israël. Alors en fait, effectivement, 120 pays ont salué cette décision courageuse et qui est très bien. Je voudrais dire, c'est la première fois que Israël qui a commis au cours de 100 ans des génocides, c'est la première fois qu'ils sont touchés par une décision et qu'ils sont mis en avant comme étant des génocidaires et comme étant des crimes contre l'humanité, alors qu'ils en commettent depuis au moins 100 ans. Donc ça, c'est une victoire pour les peuples, une victoire pour la justice, une victoire aussi pour les instances internationales qui, pour cette instance, en fait, qui jusqu'à présent n'a condamné que des dirigeants des pays du tiers-monde et jamais un dirigeant occidental qui, d'ailleurs, d'habitude, commet toujours des crimes contre les peuples qu'il domine. Alors, la réaction de la France est une réaction timorée parce que la France soutient cet État fantoche. Elle lui fournit des armes. Macron s'est fait déjà remarquer à plusieurs reprises en allant à Tel Aviv et en soutenant Netanyahou lui-même. Donc cette décision va sans doute les toucher par ricochet. Et en plus du fait qu'il y a quand même un nombre important d'avocats qui portent plainte contre les pays qui soutiennent Israël, notamment contre l'Allemagne, devant la Cour internationale de justice et devant justement. Donc en fait, c'est vrai que ce n'est pas la même cour, mais en fait, les exactions commises hein, intéressent effectivement les deux cours. Et puis, je pense qu'il faut s'appuyer sur l'un pour aller dans l'autre. Et bien que les dynamiques ne sont pas les mêmes, mais tout ce que j'espère aujourd'hui, en plus de voir saluer tous ces personnes qui sont des combattants de la vérité, je peux dire, je voudrais quand même saluer tous les peuples et la résistance du peuple palestinien qui a fait que c'est devenu évident, d'une part, cette condamnation, et puis d'autre part, le fait qu'il n'ait jamais cédé aux exactions, qu'il n'ait jamais cédé non plus, qu'ils ne se sont pas tus et qu'ils sont toujours fait parvenir les preuves et les dossiers, etc., aux différentes cours pour faire condamner Israël, parce que là, c'est un travail très, très important. Et qui est à faire et qui a été fait par les résistants palestiniens et par la résistance palestinienne dans toutes ces organisations. Donc je voudrais les saluer. Je voudrais aussi saluer tous les pays qui soutiennent la Palestine, qui soutiennent qui ont aussi voté pour que la Palestine devienne membre à part entière à l'ONU. Malgré les vétos répétés des Américains, mais en fait, ces pays persistent et signent et continuent à soutenir la Palestine, qui continue à soutenir les Palestiniens dans leur lutte pour la liberté et pour la libération de leur pays.
Merci, Assar. Mertoblé, alors, crime de guerre, crime contre l'humanité. En tant que juriste, vous pouvez nous développer un petit peu la définition de ces crimes ? perpétrée par Benjamin Netanyahou et son ministre de la guerre, Gallant.
Oui, les crimes de guerre, essentiellement, ce sont des opérations militaires qui sont effectuées et exercées à l'encontre de cibles non militaires, qui visent donc essentiellement les civils. Les crimes contre l'humanité, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est cette composante, cet élément du crime qui porte à souligner la mise en œuvre de mesures portant à atteindre l'intégrité physique d'un groupe en partie ou dans sa totalité. Et là, on peut penser effectivement l'impossibilité pour les convois humanitaires d'accéder à ceux qui en ont le plus besoin. On peut penser à l'attaque des hôpitaux, on peut penser donc à la famine qui est générée de manière artificielle pour pouvoir atteindre, si je puis dire, les civils palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza dans des proportions absolument atroces. On pense bien sûr à tous ceux qui sont encore à ce jour en ce pays sous les décombres. Ils n'ont même pas pu bénéficier d'une sépulture digne. Ils pensent à toutes les conditions qui portent sur l'absence d'hygiène, ce qui entraîne des maladies comme le choléra, la diphtérie, que sais-je encore, qui aggravent le taux de mortalité. Donc tous ces éléments ont été probablement pris en compte de façon à caractériser les crimes contre l'humanité.
Oui, c'est vrai qu'alors Netanyahou n'a lésiné sur rien pour pousser les Palestiniens de la bande de Gaza à une situation désastreuse et à l'anéantissement. Alors, à titre d'exemple, on peut citer la guerre de famine, affamer les Palestiniens de la bande de Gaza. Dites-nous, s'il vous plaît, comment réagissez-vous à ces réactions du monde entier? Qu'est-ce que cela montre, les réactions tout de suite après l'annonce de ce verdict?
Alors, si on met de côté les pieds d'orfraie qui émanent de Washington et de Tel Aviv, avec quelque part des argumentaires qui ne tiennent pas la route, enfin, on va passer sur les noms d'oiseaux, mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est en fait, somme toute, la rapidité relative avec laquelle beaucoup de capitales européennes, qui sont eux-mêmes signataires du traité de Rome, et ça a été cristallisé par la déclaration de Joseph Borrell, qui est quand même monsieur relations étrangères au niveau de l'Europe, qui renvoie donc tous les membres de l'Union européenne et par contre là tous les États signataires de procéder à l'arrestation des prévenus pour peu que ces derniers posent le pied sur leur territoire. Et on commence à avoir un flot régulier de déclarations de ces pays qui s'engagent à faire exactement ça. Et ça va même jusqu'au Canada, puisque le Canada a annoncé hier, la République d'Irlande, les Pays-Bas, dont le ministre des Affaires étrangères était d'ailleurs supposé visiter l'entité sioniste, mais il vient d'apprendre que cette visite a été annulée. L'Italie a aussi annoncé qu'elle procéderait à l'arrestation des prévenus. Quelque part, c'est un pied de nez, mais c'est le maire de Dearborn, Michigan aussi, lui-même, qui a annoncé que dans l'éventualité, certainement pas très haute, mais l'un des deux prévenus poserait le pied en état du Michigan ou dans la ville de Dearborn, il serait interpellé, malgré la position de la maison blanche. Donc, il y aura un avant et un après, il ne faut pas se voiler la face. C'est une décision qui fera jurisprudence, qui brise vraiment un tabou quelque part.
Exactement.
Et qui donnera du courage à toutes les instances pénales et judiciaires dans la poursuite des exactions en droit international pénal qu'elles soient produites où que ce soit dans le monde et quels que soient ceux qui les perpétuent.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que traiter le procès et les crimes perpétrés par Israël prendra peut-être plus de 5 décennies, 50 ans, tellement sont graves et sont multiples et sont atroces. Les crimes menés par le régime d'occupation. Oui, oui, exactement. À vous, cher Aïssar, alors, cette décision a ravivé les espoirs dans le monde entier, à l'échelle internationale. On voit que, finalement, la justice est en train d'être rétablie.
En fait, oui, elle redonne des espoirs alors qu'on était complètement désespérés et en fait la confiance n'existait plus dans toutes ces instances internationales parce que bel et bien on pensait qu'elles étaient dominées par les États-Unis et par le sionisme. Bon, maintenant, effectivement, ça redonne une note d'espoir hein, et une note de confiance à nouveau dans ces instances. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elles soient déjà appliquées, d'une part, et que, d'autre part, d'autres instances puissent suivre. Parce qu'on a vu quand même que Israël avait interdit à la commission d'enquête de l'ONU de pénétrer dans Gaza. Ils ont interdit aussi à la commission d'enquête de la Cour internationale de justice de rentrer dans Gaza. Ils s'interdisent quand même tous les vivres et tout ce qui est de les vivres, les aides humanitaires, etc., de rentrer dans Gaza, alors qu'ils continuent à bombarder et qu'ils affament et que ils font tous les crimes interdits, je dirais, tout ce qui est interdit par les lois internationales. Et on a bien vu que Netanyahou ne respectait rien et pour lui, la loi internationale n'existe pas. Alors, il est important de voir maintenant qu'elle existe et surtout qu'elle s'applique. Maintenant, il est important, tous les regards s'orientent vers l'application de cette loi et l'arrestation de Netanyahou et l'arrestation de Gallant, mais aussi de tous ceux qui sont impliqués avec eux, en fait, aussi bien dans le même gouvernement, d'une part, mais aussi tous les pays qui les soutiennent, parce qu'il faut savoir quand même que le soutien américain continue de plus belle et que des bombes de plus en plus lourdes sont fournies à Israël pour commettre en une seule seconde des crimes contre des milliers de personnes ou des centaines de personnes en une seconde. Donc ça équivaut tout à fait à la bombe nucléaire, je dirais, pour laquelle les États-Unis n'ont jamais été sanctionnés aussi. Et c'est un grand crime contre l'humanité aussi. Et ça fait 50 ans et ils n'ont jamais été sanctionnés. Donc en fait, c'est important de continuer ce chemin, de pousser aussi et de continuer à soutenir la Cour pénale internationale, de continuer à soutenir les pays qui soutiennent cette cour et qui soutiennent la Palestine et qui soutiennent la liberté dans le monde pour que ce dossier et ces crimes de Netanyahou soient traités rapidement et qu'ils soient arrêtés et condamnés très rapidement, lui et Gallant, de toute manière. Un autre point et qu'il est important de voir, c'est que cette même cour a condamné Mohamed Adrif, qui est quand même le responsable de Hamas, soi-disant pour avoir aussi organisé des crimes contre l'humanité le 7 octobre. Et là, franchement, c'est quelque chose d'absolument abject.
Merci. Hein,
parce qu'un peuple qui se défend, il n'est pas en train de commettre des crimes.
Merci.
Il se défend, il défend sa liberté et son indépendance.
Tout à fait. Merci, Aïssar. Alors, Maître Dolé, je vous laisse réagir et conclure. Nous avons 2 minutes devant nous.
Oui, alors certainement, ça va certainement prendre du temps, hein, voir peut-être que ces fugitifs pourront quelque part dans leur vie sans avoir quitté leur pays, ou alors une fois de temps en temps pour aller à Washington recevoir des ovations par le Congrès. Mais sous haute garde et avec la stigmate il les poursuivra à jamais, c'est-à-dire que personne n'est en dehors des... au-delà du droit, personne ne doit avoir l'impunité pour leur crime. Et c'est surtout ce stigmate-là qui va les poursuivre. Indépendamment de leur interpellation, ils sont maintenant marqués du sceau d'infamie et c'est maintenant officiel. C'est des papiers, des documents officiels rendus par une institution qui regroupe 124 pays et qui est une émanation directe, une cristallisation de centaines d'années de droit international public et je dirais plus précisément de plusieurs décennies de développement du droit coutumier international. Donc c'est quelque chose qui a une grande importance et qui a une valeur juridique qui fera que beaucoup de gens maintenant vont commencer à transpirer. Et je rejoins en cela Dr. Midani quand elle dit que beaucoup des gens qui se sont rendus complices durant leur temps en responsabilité de leur pays respectif en fournissant les moyens qui ont rendu ces crimes contre l'humanité et ces crimes de guerre possibles, seront peut-être eux-mêmes, on peut l'espérer, amenés à rendre des comptes.
Arnaud Doblé, ouais. Juriste international, merci infiniment. Merci. Aïssar, notre débat prend sa fin. Alors, merci infiniment également à vous, Aïssar Midani, d'avoir répondu présent pour ce débat. Merci infiniment de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.
La dédollarisation voie vers la liberté financière mondiale. La dédollarisation qui s'opère sur le marché financier mondial n'est guère évoquée dans les médias occidentaux. En dehors de l'Occident, en revanche, on l'espère car un monde sans le dollar comme monnaie de référence, est considérée comme la voie vers la liberté financière et la fin réelle du colonialisme. Le journal chinois Asia Times interpelle toujours par ses articles très intéressants sur la politique et l'économie internationale. Le journal vient de publier un article qui soutient la thèse selon laquelle la tentative des États-Unis de faire chanter et de sanctionner le monde avec le dollar a échoué parce que les sanctions contre la Russie n'ont pas eu d'effet et que, par conséquent, de nombreux pays du sud de la planète se sont détournés du dollar comme monnaie de commerce et de réserve. Ce problème, dont les médias occidentaux ne parlent pas, est bien perçu aux États-Unis. Une loi vient d'être introduite au Congrès américain pour sanctionner toutes les institutions financières du monde qui utilisent des systèmes de règlement autres que SWIFT, dominés par le dollar. À Washington, on comprend que la puissance des États-Unis repose sur la puissance du dollar. Depuis près de 200 ans, les États-Unis ont l'habitude d'imposer leur volonté aux autres pays par la force. En raison de la quasi-absence d'une véritable économie réelle aux États-Unis, la Chine a depuis longtemps supplanté les États-Unis en tant que premier partenaire commercial de la plupart des pays. Si Washington oblige ces pays à choisir entre la Chine et les États-Unis, il est probable que beaucoup d'entre eux choisiront leur principal partenaire commercial, la Chine, ce que Washington ne comprendrait pas. L'utilisation du dollar comme arme par les États-Unis se retourne contre eux, car les pays BRICS et d'autres pays en développement abandonnent de plus en plus rapidement le commerce et les avoirs en dollars basés sur le dollar. Les sanctions économiques et financières se retournent souvent contre eux. L'exemple le plus remarquable est l'utilisation du dollar comme arme contre la Russie. Cette mesure a déclenché un mouvement mondial de dédollarisation qui est à l'opposé de l'intention stratégique qui avait entraîné cette mesure punitive. Cette erreur de jugement historique n'a pas empêché le sénateur américain Marco Rubio de Floride de présenter au Congrès un projet de loi visant à punir les pays qui se désolidarisent du dollar. Le projet de loi vise à exclure du système mondial du dollar les institutions financières qui encouragent la dédollarisation. Le projet de loi de Rubio, en nom évocateur de sanctions evasion, le projet de loi de Rubio, en nom évocateur de loi sur la prévention et l'atténuation des sanctions, obligerait le président américain à sanctionner les institutions financières qui utilisent le système de paiement chinois SIPS, le service de renseignement financier russe SPFS et d'autres alternatives au système SWIFT centré sur le dollar. Rubio n'est pas le seul à cibler les pays qui misent sur la dédollarisation. Les conseillers économiques du candidat à la présidence Donald Trump discutent des moyens de punir les pays qui se détournent activement du dollar. L'équipe Trump a proposé de sanctionner à la fois les alliés et les adversaires qui tentent activement de faire du commerce bilatéral dans des monnaies autres que le dollar. Les contrevenants seraient soumis à des restrictions d'exportation, des droits de douane et des frais de manipulation de devises. Le réveil des BRICS. Les politiciens américains et les experts des médias financiers étaient initialement sceptiques vis-à-vis de la dédollarisation. Ils ont fait valoir que le dollar était utilisé dans environ 80% des transactions financières mondiales. Aucune autre devise ne peut s'en approcher. Mais les sanctions financières contre la Russie, imposées après l'intervention militaire russe dans la région ukrainienne du Donbass en 2022, ont marqué un tournant. La tendance à la dédollarisation s'est rapidement propagée et est probablement devenue irréversible. En mai dernier, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est a annoncé son intention de dédollariser son commerce transfrontalier et d'utiliser des devises locales à la place. Cette annonce n'a fait que peu de titres dans le monde, mais l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est est un énorme bloc commercial composé de 10 pays avec une population totale de 600 millions de personnes. D'autres accords visant à contourner le système du dollar comprennent le troc. L'Iran et la Thaïlande échangent de la nourriture contre du pétrole, tandis que le Pakistan a autorisé le troc avec l'Iran, l'Afghanistan et la Russie. La Chine construit un aéroport ultra-moderne en Iran qui sera payé avec du pétrole. Les crypto-monnaies sont également utilisées pour contourner le système du dollar et échapper au contrôle du bras long de la loi américaine. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin permettent aux individus d'envoyer et de recevoir des fonds de n'importe où dans le monde de manière anonyme et en dehors du système bancaire traditionnel. La dédollarisation est en tête du programme des BRICS qui deviennent rapidement le plus grand bloc économique du monde. Jusqu'en 2022, les BRICS n'avaient que peu d'objectifs clairement définis, hormis le désir commun de faire contrepoids au G7. Mais l'utilisation du système dollar comme arme et le gel de 300 milliards de dollars de réserves russes dans les banques occidentales ont donné au groupe une nouvelle orientation et un nouvel objectif. Les BRICS ont commencé leur existence comme une coalition à l'avenir improbable. Les 5 membres fondateurs sont situés sur 3 continents différents et ont des cultures, des structures politiques et des systèmes économiques différents. Mais ils partagent le désir de créer un monde multipolaire. Les BRICS sont orientés vers l'économie et n'ont pas de programme idéologique. Ils se concentrent avant tout sur le développement économique et la coopération. Leur éthique est basée sur le consensus et la réciprocité. La Chine est le premier partenaire commercial de la plupart des pays et constitue donc le pivot économique des BRICS. Comme la Chine se dédollarise progressivement, ses partenaires commerciaux suivront probablement à des degrés divers. Le pétrodollar. Le contrôle des États-Unis sur le système financier mondial peut être retracé jusqu'en 1974, lorsque le gouvernement américain a convaincu l'Arabie saoudite de ne vendre son pétrole qu'en dollars. Cet accord faisait suite à la décision des États-Unis d'abandonner l'étalon or en 1971. Le président Richard Nixon a fermé la fenêtre d'or qui permettait d'échanger des dollars contre de l'or physique. Les États-Unis menaient deux guerres en même temps, la guerre au Vietnam et la guerre contre la pauvreté. Et le gouvernement dépensait plus de dollars et accumulait plus de dettes que l'or ne pouvait en couvrir. Le pétrodollar assurait la demande mondiale continue de dollars. L'accord a obligé tous les pays importateurs de pétrole à détenir des réserves de dollars. Les pays exportateurs de pétrole ont investi leurs excédents de dollars dans des obligations et des bons du Trésor américain, finançant ainsi continuellement la dette publique américaine. Amis auditeurs, c'est tout pour cette semaine. La prochaine fois, nous vous présenterons la suite de cet article.
Thank you.